Washington, 21h à Nouakchott et 22h à Abuja. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission par le Nigeria qui vient d'être ensanglanté par un terrible attentat qui a touché Abuja, sa capitale. Nous serons en Mauritanie pour notre dossier.
Ce n'est pas parce qu'on décrète qu'il faut lutter contre la mortalité maternelle que la mortalité maternelle ou la mortalité infantile va automatiquement se régler ou se résoudre. Il faut penser que les causes de la mortalité maternelle sont multiples. Il faut donc une attaque multilatérale, attaquer toutes les causes en même temps.
La Mauritanie, où nous évoquerons la mortalité maternelle, l'une des plus élevées d'Afrique de l'Ouest. Enfin, nous irons ici, à Washington, où les assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale ont pris fin ce week-end. Même si elles restent fragiles, l'économie mondiale va mieux. Et nous évoquerons la conférence internationale sur l'eau et l'assainissement qui s'est tenue en marge des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, toujours ici à Washington. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Au Nigeria, l'explosion d'une voiture piégée dans une gare routière a fait 71 morts et 124 blessés. L'explosion a eu lieu à Niania, une banlieue de la capitale Abuja, à une heure de pointe aujourd'hui. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. En Afrique du Sud, le contre-interrogatoire d'Oscar Pistorius se poursuivait aujourd'hui. Pour la quatrième journée, le coureur paralympique a fait face à l'insistance du procureur Guérinel qui essaie de prouver que le meurtre de la petite amie de Pistorius en février 2013 n'était pas un acte de légitime défense. L'athlète admet avoir tué Riva Steenkamp mais prétend qu'il croyait tirer sur un intrus. En Libye, le premier ministre Abdallah Al-Thani a annoncé hier sa démission. Il avait été confirmé le 8 avril dernier pour remplacer Ali Zidane, qui lui a été limogé le 11 mars après quelques semaines de service. Samedi soir, des hommes armés ont attaqué la maison d'Abdallah Al-Thani, considéré comme un proche du bloc des islamistes au Parlement. Sur les raisons de sa démission, Abdelkader Kadoura, doyen de la faculté de droit de l'université de Sirte, nous en dit plus.
On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a deux versions bien. Qui disent qu'il est un petit peu vexé ce qui s'est passé le soir. Il y a deux jours, il y avait un accident. Il a vu ça pas bien pour lui, donc il a dit qu'il ne veut plus être Premier ministre. Mais il y a d'autres gens qui disent qu'il a demandé le prolongement du Congrès national pour une semaine encore. Et apparemment, le Congrès il a refusé. Mais personnellement, je ne sais pas pour quelle raison il a démissionné. L'instabilité gouvernementale en Libye maintenant, c'est un problème, mais bon, c'est l'affaire du Congrès national. On n'arrive pas vraiment de voir la raison réelle de toute cette stabilité gouvernementale. Certainement, il y a un groupe qu'on appelle des Noirs durs au Congrès national qui domine peut-être les choses sur le reste de la Libye. On ne peut pas dire qu'il participe réellement dans la vie politique de la Libye.
Abdelkader Kadoura, le doyen de la faculté de droit de l'université de Sirte en Libye. États-Unis, la violence religieuse n'a pas sa place dans la société américaine. C'est ce qu'a déclaré Barack Obama lors d'un déjeuner de prière à la Maison-Blanche. Le président américain réagissait à la fusillade hier dans une maison de retraite juive dans l'État du Kansas. L'assaillant, un antisémite présumé, a tué trois personnes. La police a arrêté Frazier Glenn Cross, un militant pour la suprématie des Blancs. En Ukraine, des manifestants pro-russes se sont emparés aujourd'hui d'un autre bâtiment de la police, cette fois dans la ville d'Olivka. Camille Gros-Didier.
L'ultimatum lancé par le gouvernement pour que les manifestants quittent les bâtiments qu'ils occupent dans plusieurs villes a expiré sans que les forces de l'ordre interviennent. Les manifestants pro-russes réclament un référendum similaire au vote intervenu le mois dernier en Crimée qui s'est traduit par le rattachement de la région à la Russie. Le président intérimaire de l'Ukraine, Oleksandr Turchynov, a menacé de lancer ce qu'il a qualifié d'opération antiterroriste de grande envergure contre ceux qui se sont emparés des bâtiments publics. Dans un entretien téléphonique lundi avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il a demandé l'appui de l'ONU pour une telle opération. M. Turchynov affirme qu'il n'est pas contre un référendum car il est certain que la majorité de ses compatriotes serait favorable à une Ukraine unie et indépendante qui pourrait élargir les droits des populations dans l'est du pays. Selon lui, un tel vote pourrait avoir lieu en même temps que l'élection présidentielle prévue le 25 mai.
Et sur les traces du Boeing 777 de Malaysia Airlines disparu le 8 mars, l'Australie veut essayer une exploration sous-marine. Un appareil téléguidé sera déployé le plus tôt possible pour déterminer si les signaux perçus par les équipes de recherche proviennent de l'avion. Maintenant, la suite de Sahel Plus, Claire Morin-Gibou.
Retour à la partie magazine de l'émission. Au Nigeria, l'explosion d'une voiture piégée à une gare routière a tué au moins 71 personnes et fait 124 blessés. L'explosion a eu lieu à Nyanya, une banlieue de la capitale Abuja, à une heure de pointe ce matin. Les explications de Jean-Roger Bion.
Un survivant cité par les médias nigériens a dit que l'explosion provenait d'un véhicule placé en face de la gare routière bondée. D'après ce témoin, le conducteur a garé la voiture et a disparu avant l'explosion. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. 40 véhicules ont été détruits dans l'explosion. Le président nigérian Goodluck Jonathan, qui a aussi fait allusion au groupe Boko Haram, a exhorté ses compatriotes à être vigilants. Les militants de la secte islamiste sont également soupçonnés dans les attaques de ce week-end qui ont fait au moins 60 morts dans l'état de Borno. Deux villages ont été attaqués de nuit. Les habitants ont vu leurs maisons et magasins détruits et incendiés. La secte Boko Haram a été accusée d'être responsable des milliers de morts depuis le lancement de son insurrection en 2009.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 99 FM, notre fréquence à Abidjan. Et nous sommes en Mauritanie pour notre dossier. La Mauritanie, où le taux de mortalité maternelle est passé de 686 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2007 à environ 626 aujourd'hui. Une baisse relative, mais loin de l'objectif fixé par l'OMD, l'objectif du millénaire pour le développement, le OMD numéro 5 des Nations Unies, qui veut améliorer la santé maternelle et qui consiste à faire baisser de 3/4 les taux de mortalité des femmes liées à la maternité. Ce taux de mortalité maternelle en Mauritanie est toujours l'un des plus élevés d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Comment expliquer ce taux élevé? Quels changements la Mauritanie peut-elle mettre en place pour améliorer la santé maternelle? Reportage à Nouakchott de notre correspondant Brahim Dia.
Réduire de 3/4 entre 1990 et 2015 le taux de mortalité maternelle, c'est l'un des objectifs du millénaire pour le développement fixé par le système des Nations Unies. Avec un taux de mortalité maternelle de 626 décès pour 100 000 naissances vivantes, la Mauritanie, à quelques mois de l'horizon 2015, est loin, très loin de cet objectif. Les causes de cette mortalité maternelle élevée sont multiples. Dr Ba Aïssata Yaya, directrice du centre hospitalier mère et enfant de Nouakchott, insiste sur ce qui est appelé les trois retards.
Les trois retards, c'est d'abord au niveau de la famille. Si, par exemple, une femme est enceinte, il faut qu'au niveau de la famille, qu'elle veuille bien aller se consulter, que son mari la laisse aller consulter, que sa belle-famille la laisse consulter, ou bien qu'elle-même, elle décide d'aller tout simplement consulter. Donc, il y a un grand travail, un changement de mentalité à faire, même au sein de la famille à faire. Parce que si elle décide de rester, d'accoucher à domicile et tout ça, ça, c'est pas l'État, ça, c'est pas l'hôpital, ça, c'est un problème de mentalité. Donc, ça, c'est passe au niveau de la communauté. Donc, il y a un grand travail à faire à ce niveau. Donc, si on dépasse ce niveau, le deuxième retard, c'est l'État qui est responsable du deuxième retard, qui n'a rien à voir avec la santé. Le deuxième retard, c'est les infrastructures. Une patiente qui décide d'aller se consulter, peut-être qu'elle habite dans un village très enclavé. Comment elle va faire en saison de pluie, par exemple? Comment elle va faire pour accéder au poste de santé? Donc, tout ce qui est infrastructure, route et tout ça, ça, c'est l'État.
Le troisième retard, c'est quand les patientes arrivent au niveau des structures de santé. Elles ne sont pas rapidement prises en charge. Autre cause de la mortalité maternelle, la culture du don du sang n'est pas bien ancrée en Mauritanie. Dr Mohamed Cheikh, gynécologue au centre hospitalier mère et enfant.
On sait maintenant que la majeure partie de nos structures hospitalières, surtout celles de l'intérieur, il n'existe aussi, existe, c'est rudimentaire, des unités de banque de sang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture chez notre population sur le don de sang. Et donc, nous nous retrouvons avec des banques de sang dans nos structures sanitaires de l'intérieur, surtout du pays, des structures de banque de sang carrément vides. Ça, c'est parmi les choses très importantes qui nous aideront quand même à réduire les décès maternels dits à l'hémorragie sont des décès en général évitables.
Pour Raymond Najjar, gynécologue lui aussi, pour lutter efficacement contre la mortalité maternelle, il faut s'attaquer en même temps à toutes ses causes, notamment celles liées aux mentalités.
Ce n'est pas parce qu'on décrète qu'il faut lutter contre la mortalité maternelle que la mortalité maternelle ou la mortalité infantile va automatiquement se régler ou se résoudre. Il faut penser que les causes de la mortalité maternelle sont multiples. Il faut donc une attaque multilatérale, attaquer toutes les causes en même temps. Si l'hôpital mère-enfant a pris des résolutions pour réduire certaines causes de mortalité maternelle, toutes les causes ne peuvent pas être prises en charge. C'est-à-dire que s'il y a moins d'infections parce qu'on a un contrôle sur l'infection de la femme qui vient d'accoucher postpartum, si on a un contrôle de l'hémorragie parce que, comme l'a dit le docteur Mohamed Cher, il existe une banque de sang, si on a une meilleure surveillance, un meilleur suivi de la grossesse et qui permet de prévenir, voire de traiter les hypertensions artérielles, il n'en reste pas moins que c'est un problème de mentalité.
Nous retrouverons demain la seconde partie du reportage de Brahim Dia consacré à la mortalité maternelle en Mauritanie. Et pour finir l'émission, nous évoquons donc la clôture des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale ici à Washington DC. Si les perspectives de l'économie mondiale des institutions de Bretton Woods sont à la hausse, les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 sont très déçus que les pays émergents n'aient toujours pas plus de poids au sein du Fonds monétaire international. Le Congrès américain a donc été sèchement invité à ratifier cette réforme du FMI décidée en 2010. Les explications de Camille Grosdidier.
Au terme de leurs entretiens ce week-end, les responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont confirmé que l'économie mondiale se redresse, mais reste fragile. Ils se sont engagés à œuvrer pour promouvoir la croissance et mitiger le chômage, qui reste obstinément élevé dans nombre de pays, y compris aux États-Unis. Bien que le taux d'inflation reste faible dans les pays industrialisés, les experts ont rappelé que certaines économies avancées pourraient souffrir de déflation. Par ailleurs, dans leur communiqué final, les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 se sont déclarés profondément déçus du retard persistant dans les réformes des quotes-parts et de la gouvernance du FMI arrêtée en 2010, un projet de réforme qui vise à donner plus de poids aux pays émergents tout en augmentant les ressources du fonds. Le Congrès des États-Unis refuse toujours d'approuver la mesure. Nous sommes déterminés à faire en sorte que le FMI demeure une institution solide qui dispose de ressources adéquates, ont ajouté les ministres dans leur communiqué. Si les réformes de 2010 ne sont pas ratifiées d'ici la fin de l'année, nous demanderons au FMI de s'appuyer sur ses travaux existants pour proposer les mesures envisageables.
En marge des assemblées annuelles, une conférence internationale sur l'eau et l'assainissement a eu lieu. 80 ministres d'une cinquantaine de pays en voie de développement et de pays donateurs y assistaient, ainsi que des ONG et des agences de développement. Un rapport de l'ONU sur l'eau et l'assainissement révèle que près de 525 000 enfants sont morts en 2012, faute d'eau potable et d'hygiène. Timothée Donangmaï a joint l'un des participants à la conférence de Washington, Évariste Kouassi Komlan, chef adjoint des programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène à l'UNICEF.
Il y a encore autour de 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, malgré que les progrès ont été réalisés dans ce domaine. Et en matière d'assainissement, il y a encore 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux services d'assainissement de base. Globalement, on arrive à avoir à peu près autour de 15% des populations qui n'ont pas accès à l'assainissement, qui continuent pas à déféquer à l'air libre, ce qui donne un nombre très, très important si on veut essayer à réduire les maladies liées à l'eau et l'assainissement au niveau global.
Est-ce que cette situation s'explique uniquement en termes de manque de ressources?
Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à ça. D'abord, l'organisation au niveau des pays et le fait qu'il y a beaucoup de ministères qui gèrent en même temps les questions de coordination, beaucoup de ministères qui gèrent en même temps ce problème, la question d'accès à l'eau et l'assainissement est un des premiers facteurs. Le second, c'est les ressources financières qui ne sont pas mises à disposition et qui ne sont pas disponibles pour ce secteur, parce que généralement, ce secteur, ce que je peux dire, le parent pauvre de tous les autres secteurs qui ne reçoit pas l'attention nécessaire dans la plupart des pays. Et le troisième élément, c'est la capacité, la faible capacité qui existe au niveau des pays, les ressources humaines et techniques qui existent au niveau des pays pour pouvoir contribuer à ça. Et la toute dernière, si je peux dire, c'est aussi les problèmes liés à la durabilité des services et au suivi et évaluation des services mis à disposition des pays.
Quel est l'enjeu de cette conférence de Washington par rapport à tous ces problèmes que vous avez énumérés?
Heureusement qu'on a ce partenariat au niveau global qui s'appelle Sanitation and Water for All et dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'aide dans les pays en voie de développement. Ce qui s'explique par le fait qu'il faut qu'on arrive à avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe dans les pays et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les investissements au niveau de pays. Et Sanitation and Water for All nous aide dans trois domaines spécifiques. Le premier, c'est comment est-ce qu'on améliore la planification, le processus de planification au niveau de pays. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut amener l'eau et l'assainissement à un niveau politique le plus élevé. Et le troisième, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer par les données évidentes, probantes pour montrer que ce secteur peut avoir beaucoup plus d'impact sur les autres secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'alimentation, etc.
Évariste Kwasi Kamlan, chef adjoint des programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène à l'UNICEF. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 92.2 FM à Mopti, au Mali, sur la radio Sagan. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Joe Gill. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Et nous nous quittons en musique avec Femi Kuti et le morceau Bang Bang Bang. Femi Kuti qui se produira à la Cité de la Musique à Paris le 17 avril lors du festival African Remix. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
She said, love me now. She said, squeeze me now. And now she just makes me wonder. Her breast be like you don't love Maria. I say everything the correct order. She said, love me, Femi, don't stop. Love me now, squeeze me now.